is Martha Berry. Martha Berry est née aux États-Unis en 1865 et elle est décédée en 1942. Elle est la fondatrice de plusieurs écoles qui portent son nom, en particulier dans l'État de Géorgie. Tout a commencé par son désir d'aider les enfants pauvres qu'elle croisait jour après jour, semaine après semaine, près de chez elle. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à leur faire l'école. Elle n'avait pas de livres, pas de local, pas d'argent, mais elle avait un rêve. Et c'est fort de ce rêve qu'elle est allée trouver Henry Ford. Henry Ford, industriel prospère, constructeur des automobiles Ford. Elle est allée le trouver pour lui demander une aide financière. Et il semblerait que M. Ford a alors plongé sa main dans sa poche et lui a donné a dime. A dime, c'est 10 centimes. Alors c'est peut-être un peu plus que maintenant, mais c'est un dixième d'un dollar. Beaucoup se seraient sentis insultés par cette petite offrande de la part de ce multimillionnaire de l'époque, mais pas Martha. Elle remercia Henry Ford et elle acheta un sachet de graines de cacahuètes avec l'argent qu'elle venait de recevoir. Elle planta les graines, elle prit soin des plantes, puis elle vendit le tout, vendit toute la récolte, et avec le bénéfice, elle acheta plusieurs sachets de graines, et après plusieurs récoltes, 4 ans, Martha fut en mesure d'acheter un local pour faire l'école aux enfants dont elle s'occupait. Et après avoir acheté ce local, elle est retournée voir Henry Ford et lui a dit, elle lui a expliqué, « Regardez, lui a-t-elle dit, ce que vos 10 cents ont donné. » Et M. Ford a été, semble-t-il, très impressionné. Et dans les années qui ont suivi, il a été le donateur de plusieurs millions de dollars à Martha Berry pour soutenir la cause de la scolarisation de ses enfants en grande difficulté, des écoles qui existent encore aujourd'hui. Avec 10 cents, Martha a construit plusieurs écoles. Et la question que j'aimerais faire ressortir de cette petite histoire est celle-ci. Que faisons-nous avec ce que le Seigneur nous a donné? Que faisons-nous avec ce que le Seigneur nous a donné? Récemment, nous avons étudié la parabole des talents en réunion de quartier. Et ça a soulevé pas mal de questions. Alors j'ai décidé de l'aborder le mercredi soir et le jeudi après-midi à l'étude biblique, mais nous n'étions qu'une poignée. Alors j'ai décidé de prendre cette parabole avec vous ce matin. Je rappelle que lors du forum d'église, il y a quelques semaines, plusieurs avaient évoqué cette possibilité d'avoir une synthèse lors d'un culte sur les canevas qui sont étudiés en réunion de quartier, selon une phrase célèbre, « Je vous ai entendu ». Voilà, dès que ça va revenir, on va commencer. Sa recherche. Non, ça veut pas. Bon, commençons. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» En réponse à la question des disciples, Jésus va tout d'abord parler des temps de la fin, puis dans un deuxième temps, il va parler de son retour dans ses chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu. L'accent du discours de Jésus, c'est la vigilance. Et en parlant des temps de la fin, en parlant de son retour, Jésus appelle ses disciples à la vigilance. Quelques phrases glanées de ces deux chapitres. « Prenez garde, dit Jésus, que personne ne vous séduise. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Voilà presque 2000 ans que Jésus a quitté ses disciples, et pour nous, comme pour tous ceux qui nous ont précédés, demeure l'attente du retour de Jésus. Pour nous, comme pour tous ceux qui nous ont précédés, demeure la nécessité d'être prêt, c'est-à-dire toujours prêt, puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure du retour de Jésus, si ce n'est Dieu le Père. Le grand jour arrive. Jésus va revenir et il nous invite à nous préparer pour cela. Pour illustrer son retour et surtout pour illustrer la nécessité d'être prêt, Jésus va en réponse à la question des disciples dans ces versets que nous avons lus. Jésus va prononcer trois paraboles dans ces deux chapitres de Matthieu. La première parabole met l'accent sur la nécessité d'attendre la venue de Jésus en prenant soin de ceux qu'il a confiés à son Église, contrairement à ce que faisaient les autorités religieuses de cette époque. C'est la parabole du bon et du mauvais serviteur, Matthieu 24, 45 à 51. La deuxième parabole que Jésus raconte en réponse à cette question des disciples, c'est celle des 10 vierges, qui est un peu plus connue, et qui met l'accent sur la nécessité d'être prêt, toujours prêt, puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Et la dernière parabole, celle qui nous intéresse ce matin, est celle des talents, qui nous dit comment être prêt pour le retour de Jésus. Et être prêt, selon la parabole des talents, c'est faire fructifier ce que le Seigneur m'a confié. Faire fructifier ce que le Seigneur m'a confié. Je vous propose de lire ensemble maintenant cette parabole. Je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Seconde, Matthieu chapitre 25. Je commence au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves ou ses serviteurs. En grec, c'est le même mot. C'est traduit esclave. La plupart des traductions ont serviteur. Appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le plan que je vous propose ce matin est très simple. Il tient en 2 grandes parties. La parabole expliquée, quelques précisions pour mieux cerner le sens de ce qui est dit, et puis la parabole appliquée. Premièrement donc, la parabole expliquée. « Il en sera comme, dit Jésus, au début de notre parabole. » La parabole qui précède au début du chapitre 25 commence aussi avec cette même formule, c'est souvent le cas d'ailleurs pour les paraboles. « Alors le royaume des cieux sera semblable à... » Et dans cette parabole-là, ce sont les 10 vierges. « Il en sera comme » fait donc dans ce contexte à l'évidence référence à ce même royaume des cieux. La parabole des talents est donc elle aussi à sa manière une illustration du royaume des cieux. Et elle nous apprend que ce royaume des cieux est semblable à un homme qui étant parti en voyage après avoir confié ses biens à ses serviteurs, leur demande des comptes à son retour. Les biens que le maître distribue sont des talents, dit le texte. Malheureusement pour nous, le français ne nous aide pas dans la compréhension du texte ici. Les talents dont il est question ne représentent pas nos aptitudes ou nos dons, comme le mot français pourrait le laisser entendre. Le talent était une unité monétaire à l'époque de Jésus. Et c'est pour éviter ce malentendu linguistique que la traduction du semeur va utiliser un autre mot, le mot « lingot » à la place. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il fallait à l'époque de Jésus 6 000 deniers pour faire 1 talent. Un denier, c'était à peu près le SMIC de l'époque. C'était le salaire moyen d'un ouvrier pour une journée. 1 denier. 1 talent, 6 000 deniers, si vous faites le calcul, ça fait à peu près 17 années de travail en équivalent salaire. Ce sont donc des sommes extrêmement importantes. 10 talents, 5 talents, 1 talent, ce sont des sommes extrêmement importantes que le maître confie à ses serviteurs. Ça souligne d'une part le caractère très précieux de ce qu'il leur confie. Ce n'est pas juste un petit truc en passant, c'est extrêmement précieux. Et puis ça souligne aussi la grande confiance que le maître place dans ses serviteurs, qui vont devoir administrer ce bien si précieux pendant l'absence de leur maître. Le premier serviteur reçoit 5 talents, le second en reçoit 2 et le troisième en reçoit 1. Ce qui est important de relever ici, ce n'est pas tant la somme que chacun reçoit, mais le fait que chacun reçoive une partie des biens de son maître selon ses capacités, dit le texte, selon ses aptitudes. Cela veut dire que le maître n'a pas d'attente irréaliste concernant ses serviteurs. Ce qu'il confie à chacun correspond à ce que chacun peut administrer. Et après avoir distribué ses biens, le maître part en voyage. Pendant l'absence du maître, les deux premiers serviteurs se mettent au travail et ils font tous les deux fructifier les biens qui leur ont été confiés. Chacun double la mise de départ. Ce n'est pas très important. Ils auraient pu tripler. Il y en a un qui aurait pu doubler, l'autre tripler. L'importance n'est pas là. Celui qui a reçu 5 talents en gagne 5 autres. Celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 autres. Le troisième serviteur, quant à lui, agit totalement différent. Plutôt que de faire fructifier ce qu'il a reçu, il va creuser un trou pour enterrer et cacher son talent. Il faut savoir qu'à l'époque, et ça a été le cas pendant très longtemps, c'était une pratique courante que d'aller cacher, enterrer ce qu'on avait de précieux au fond du jardin ou quelque part. Il y avait bien des banques, mais elles étaient rares. Et quand il y avait quelque chose d'important à garder, une somme d'argent importante, des bijoux, on les enterrait dans un endroit secret. Et quand on en avait besoin, généralement, la nuit, on allait déterrer ce qu'on avait caché. C'est à l'évidence ce que fait le troisième serviteur dans notre parabole. Longtemps après, le maître revient. L'heure des comptes a sonné pour les trois serviteurs. Le premier serviteur s'approche et présente à son maître ce qu'il a gagné. Il a reçu 5 talents, il lui en donne 5 de plus. 10 talents remis au maître. Et son maître le félicite. C'est bien, dit-il. Tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. La fidélité du serviteur est récompensée. Il a été fidèle dans les petites choses que le maître lui avait confiées, il en recevra maintenant de bien plus grandes. Et il est invité à partager la joie de son maître. Le second serviteur a lui aussi doublé la mise. Il a lui aussi fait fructifier ce qu'il avait reçu. Et il reçoit exactement la même louange que le premier serviteur. C'est bien, tu es un bon esclave digne de confiance, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. C'est maintenant au tour du troisième serviteur, celui qui a reçu un talent. Lui aussi doit rendre des comptes, mais lui, à l'inverse des deux premiers, n'a pas fait fructifier ce qu'il a reçu, ce que le maître lui avait confié. Non seulement il se contente de rendre la somme qu'il a reçue, mais en plus il cherche à se justifier. Et en plus, il rend le maître responsable de ses agissements. Verset 24. Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Le troisième serviteur affirme que son maître est déraisonnable. Déraisonnable parce qu'il moissonne là où il n'a pas semé. Comment pourrait-on servir un tel maître? Aux yeux du troisième serviteur, c'est bel et bien le maître qui est responsable de son improductivité. Et cela nous rappelle une autre histoire. Cela nous rappelle une histoire qu'on trouve dès le début de la Bible. Cela nous rappelle ce que Adam a dit à Dieu après la chute dans le jardin d'Éden. Que lui a-t-il dit? Pour se justifier, c'est la femme que toi, Dieu, tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Autrement dit, c'est toi, Dieu, qui es responsable. Tu n'avais qu'à me donner quelqu'un qui ne m'incite pas à pécher. Il est très facile de se déresponsabiliser en blâmant les autres. Et il est très facile aussi de se déresponsabiliser en rendant Dieu responsable à notre place. Le jugement du maître est sans ambiguïté. Il appelle son serviteur méchant et paresseux. L'image que celui-ci a de son maître est non seulement fausse, mais lui-même, le troisième serviteur, est plein de fausseté. Si effectivement son maître moissonnait là où il n'a pas semé, ce serviteur aurait au moins dû faire fructifier la somme reçue au moyen d'intérêts bancaires. C'est ce que souligne Jésus d'une manière un peu ironique. Il souligne en tout cas l'incohérence de ce troisième serviteur. Parce que s'il savait effectivement, si c'était vrai que le maître moissonne où il n'a pas semé, alors il est complètement irresponsable de n'avoir pas au moins mis l'argent chez les banquiers pour avoir quelque intérêt. La réalité, c'est que cet homme, ce troisième serviteur, n'a aucun intérêt pour les affaires de son maître. C'est ça, la réalité. D'ailleurs, il ne le connaît pas vraiment. Il ne le connaît pas, il n'a une image complètement fausse de lui. Toutes ses excuses sont vaines et la sentence du maître est sans appel. Il fait enlever le talent au troisième serviteur et le donne au premier, puis il fait jeter ce serviteur inutile, dit le texte, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole expliquée, maintenant la parabole appliquée. De quoi Jésus parle-t-il? De quoi parle cette parabole? Et qu'a voulu enseigner Jésus au travers de cette parabole? Il est clair dans le contexte de Matthieu 24 et 25 que celui qui part et qui revient, c'est Jésus. Je n'ai pas lu un commentateur qui remette cela en question. La parabole des talents parle du départ et du retour de Jésus. Dans cette parabole concernant son retour, Jésus va affirmer beaucoup de choses. Il affirme qu'il va partir. Il affirme qu'avant de partir, il confie ses biens à ses serviteurs. Il dit qu'il va partir pendant longtemps, puis qu'il va revenir et qu'à son retour, il demandera des comptes des biens, de ses biens qu'il récupérera, des biens qu'il a confiés à ses serviteurs. Jusqu'ici, pas de problème, c'est clair. Les choses se compliquent légèrement quand nous cherchons à répondre aux deux questions suivantes. Qui sont les serviteurs à qui le maître confie ses biens? Et puis, deuxième question, que représentent les talents ou les lingots? Première question, qui sont les serviteurs à qui le maître confie ses biens? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des chrétiens? Nous serions assez tentés naturellement, spontanément, de dire oui. Mais cela ne va pas sans soulever au moins deux problèmes de taille. Le premier problème est le suivant. Si les serviteurs de cette parabole, si les trois serviteurs de cette parabole sont des chrétiens authentiques, tous les trois, ils sont nés de nouveau, alors le troisième serviteur perd son salut parce qu'il est jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, dans le Nouveau Testament, c'est toujours le lieu de la perdition éternelle, que l'on appelle aussi l'enfer. Le troisième serviteur, si on croit comme moi que l'on ne peut pas perdre son salut, que c'est ce que la Bible nous enseigne, alors le troisième serviteur ne peut pas être un chrétien né de nouveau. Il ne peut pas être au bénéfice de l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ et se retrouver jeté dans les ténèbres du dehors. On pourrait citer beaucoup de textes, je cite celui de Paul dans Romains 8 qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ne peut séparer qui ? Ceux qui ont été prédestinés, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été justifiés et ceux qui ont été glorifiés. Rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est la première difficulté de notre texte. Qui sont les serviteurs? Le deuxième problème, si les serviteurs de la parole sont tous les trois des chrétiens authentiques, alors cette parabole va enseigner quelque chose que l'on ne trouve pas dans l'Écriture, à savoir le salut par les œuvres. C'est quelque chose qui n'existe pas dans l'Écriture. Ça existe parce que c'était pratiqué par les pharisiens, par exemple, mais qui est dénoncé par Jésus. Un seul texte suffit pour balayer cette possibilité. C'est le texte d'Éphésiens 2 qui dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il nous faut donc trouver une autre explication. Si les serviteurs à qui le maître confie ses biens ne sont pas tous des chrétiens, alors qui sont-ils? Je crois que la réponse, en tout cas, c'est ce que je crois, que la réponse la plus adéquate ici est de dire que les serviteurs de la parabole représentent toutes celles et tous ceux qui professent le Christ. Qui professent le Christ. Toutes celles et tous ceux qui se disent chrétiens, qu'ils le soient réellement ou pas. Vous voyez la nuance. Cette parabole nous enseigne que ce que nous sommes spirituellement est révélé par ce que nous faisons. Les deux premiers serviteurs ont prouvé par leurs œuvres que leur foi était authentique, qu'ils sont véritablement passés par la nouvelle naissance. Ce n'est pas le salut par les œuvres, mais ce sont les œuvres qui accompagnent le salut. C'est toute la différence qu'on fait souvent jouer entre Paul et Jacques. Parce que Jacques, que dit-il dans son épître? Il dit que la vraie foi, la foi qui sauve, est nécessairement accompagnée de fruits. Elle est nécessairement accompagnée des œuvres de la foi. Il ne peut pas en être autrement, dit Jacques dans son épître. Ou alors, c'est une profession vaine, une profession de foi vaine, dit Jacques, comme celle des démons. C'est parce que la vraie foi implique des œuvres que Jacques va dire dans son épître qu'il peut montrer sa foi par ses œuvres. Et c'est un des points qui est généralement mal compris. Les œuvres des deux premiers serviteurs montrent la réalité de leur foi. Ils ne professent pas seulement, ils ne se contentent pas de paroles, ils agissent et leurs œuvres, leurs fruits, montrent que leur cœur a été régénéré. Ce sont des chrétiens authentiques. Le troisième serviteur est lui aussi compté parmi les serviteurs. Il a lui aussi fait profession de foi, mais en réalité, son cœur n'est pas régénéré. Et nous pouvons le dire parce que l'absence de fruits dans sa vie trahit le fait que sa foi est morte. S'il avait été un serviteur authentique, il aurait porté du fruit. Il aurait aussi œuvré, ne serait-ce qu'en mettant l'argent chez les banquiers pour les intérêts minimums, il aurait fait quelque chose. Mais le fait qu'il n'a rien fait traduit le fait que sa foi est morte. Le troisième serviteur représente toutes celles et ceux qui paraissent être chrétiens, mais qui ne le sont pas. Toutes celles et ceux qui paraissent être chrétiens, mais qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Tous ceux qui ont l'apparence, qui ont la forme, mais pas le fond. Et nous avons plusieurs textes bibliques qui viennent appuyer cela. La Bible parle de l'ivraie qui est mélangée au blé. La Bible parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. La Bible parle de ceux qui sont dans le troupeau sans en faire partie. Ils suivent le mouvement, mais il leur manque l'essentiel. Il leur manque un cœur régénéré. Ce ne sont pas des chrétiens authentiques. Mes amis, il y a dans cette parabole la triste réalité de celles et de ceux qui professent être à Christ et qui ne le sont pas. Jésus a dit que c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Et la question que nous devons nous poser maintenant chacun, c'est quels sont les fruits de ma vie? La question est sérieuse. Cette parabole est pour chacun de nous un appel à nous examiner en profondeur. C'est pas pour nous faire peur, c'est pas pour nous faire douter, mais c'est pour nous interpeller si jamais nous n'avons pas encore plié le genou devant Jésus-Christ. Suis-je réellement passé par la conversion? Est-ce que je suis convaincu de mes péchés? Est-ce que je me suis repenti devant Dieu de mes péchés? Est-ce que je cherche par la grâce de Dieu à vivre en nouveauté de vie? Et si c'est le cas, alors ce que nous enseigne cette parabole, c'est que cela va se traduire, doit se traduire nécessairement par du fruit dans ma vie. Cela doit se traduire par du fruit dans ma vie, et un jour, quand Jésus reviendra, le jour où je me tiendrai devant Dieu, que ce soit par ma mort ou de mon vivant, quand Jésus reviendra, je devrai rendre des comptes pour ces lingots, ces talents que Dieu m'a donnés. Alors ça nous amène à notre deuxième question. Que représentent les talents? Et pour répondre à cette question, il faut d'abord dire ce qu'il ne représente pas. Une des interprétations classiques de cette parabole est de comprendre les talents comme nos dons naturels, nos aptitudes naturelles et ou spirituelles que nous devons mettre au service de Dieu. Alors mes amis, c'est vrai. Si Dieu a fait de vous un bon charpentier, c'est sans doute bien que vous soyez utile pour cela dans l'Église quand il y aura du travail à faire au niveau de la charpente. C'est vrai pour tous les dons et les aptitudes que Dieu nous donne, mais ce n'est pas de cela dont parle notre parabole. Je crois que cette interprétation ne rend pas justice au texte parce qu'elle s'appuie en particulier sur cette difficulté linguistique ou sur cette ambiguïté linguistique du mot, du sens du mot talent en français. Si dès le départ c'était traduit lingot, je ne suis pas sûr qu'on en soit arrivé à cette compréhension-là. Une autre interprétation classique est de considérer que les serviteurs sont les hommes en général, tous les hommes, ils représentent l'humanité. Ça a du sens, beaucoup le pensent. Je n'irai pas dans ce sens-là parce qu'à mon sens, c'est oublier qu'il est clairement question ici du royaume de Dieu. Pas du monde, pas de la terre, mais du royaume de Dieu. C'est une illustration du royaume de Dieu. Et donc je pense qu'il faut écarter cette compréhension-là. Il y a dans le texte une indication déterminante pour répondre à notre question. Le texte précise que les talents sont donnés à chacun selon sa capacité. C'est bien ce que dit le texte. Chacun reçoit une partie des biens de son maître en fonction de ses talents naturels, spirituels, de ses capacités, de ses aptitudes à administrer les biens de son maître. Et donc, si ces talents sont donnés en fonction de nos dons, en fonction de nos aptitudes, il devient difficile d'imaginer qu'ils sont eux aussi des dons et des talents que Dieu nous donnerait en plus. Et puis, il convient ici de se rappeler que ce que le maître donne aux serviteurs appartient au maître et pas au serviteur. Ils devront le rendre à la fin. Et nous l'avons souligné, c'est quelque chose qui a une immense valeur. Difficile de faire coller nos dons et nos aptitudes avec tous ces détails. Alors, de quoi s'agit-il ? Encore une précision. Dans la logique de ce que nous venons de dire, nous devons trouver une explication qui colle, qui peut être donnée, quelque chose qui peut être donné à tous ceux qui professent le Christ, qu'ils soient véritablement chrétiens ou pas. Alors de quoi s'agit-il ? La réponse la plus satisfaisante que j'ai trouvée, c'est que les talents représentent tout ce qui fait avancer la cause de Jésus-Christ. Tout ce qui fait avancer son royaume, tout ce qui fait progresser le règne de Dieu. Et je crois personnellement que les talents qui sont donnés représentent en particulier l'Évangile. L'Évangile et les occasions que Dieu nous donne de le partager. Et tous ceux qui professent Jésus-Christ, que leur profession soit véridique ou pas, entendent et reçoivent la parole de Dieu. Christ leur confie sa parole. Christ leur confie son évangile, chacun selon ses capacités. Et chacun reçoit diverses occasions de faire fructifier cet immense trésor qu'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, de faire fructifier cette parole reçue. À chacun appartient la responsabilité de saisir toutes les occasions que Dieu lui donne de témoigner, d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul était conscient de cela. Et il a ce verset très fort dans sa première lettre aux Corinthiens où il dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Est-ce que j'ai cette compréhension-là aussi ? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous sommes tous concernés par l'annonce de l'évangile. Et cette parabole nous rappelle que cette responsabilité, ce n'est pas uniquement la responsabilité des professionnels de la parole, les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes. Peut-être, mais c'est la responsabilité de tous les serviteurs, de tous ceux qui professent Jésus-Christ. Jésus nous a confié sa parole, son évangile, la bonne nouvelle de son salut, et Dieu nous donne jour après jour des occasions de faire fructifier les biens que le Maître nous a confiés. Ce sont les bonnes œuvres, préparées d'avance en particulier. Christ va revenir, c'est une certitude. Il va non seulement revenir, mais il va revenir et il demandera des comptes des biens qu'il a confiés à ses serviteurs. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alors ce n'est pas pour la question du salut si je suis sauvé, puisqu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais c'est en particulier, je le crois, par rapport à cette responsabilité que nous avons de faire progresser le royaume de Dieu. Que faisons-nous des biens que Dieu nous a confiés ? Que faisons-nous de son évangile ? Que faisons-nous des occasions de témoigner que Dieu nous donne à chacun ? Est-ce que nous réalisons la confiance que Dieu nous fait en nous donnant ce trésor de la parole, ce trésor de son évangile, le trésor du message du salut? C'est un trésor parce qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que Jésus-Christ. Il y a une chose qui m'encourage grandement dans cette parabole. Il s'agit du fait que le premier et le deuxième serviteur reçoivent tous les deux, et je l'ai montré en juxtaposant les deux versets, exactement le même éloge. Pourtant, il y en a un qui présente 10 talents et l'autre qui en présente 4. Mais ça n'a pas d'importance. Le texte le souligne clairement. Là n'est pas l'enjeu. Ce n'est pas la quantité qui compte. En tout cas, pas aux yeux de Jésus. Et j'aurais envie de dire que c'est la qualité. La question importante, ce n'est pas combien de talents est-ce que j'ai reçu et combien de talents je vais gagner parce que j'ai reçu ce que je suis capable d'administrer. Et donc, il n'y a aucune gloire à tirer de cela. Que j'en ai reçu 1, 2, 5, 10, 1000, peu importe. Ça, c'est la décision du maître. La question est donc non pas combien de talents, ni même combien j'en gagne, mais est-ce que je suis fidèle ? Est-ce que je suis fidèle dans ce que j'ai reçu ? Est-ce que je suis fidèle, par exemple, dans l'administration de l'évangile que j'ai reçu, que Dieu m'a confié ? Nous avons tous compris l'évangile, nous l'avons tous entendu. Qu'en faisons-nous ? Et ce qui est merveilleux ici, c'est que Dieu n'attend pas de moi, n'attend pas de vous, plus que ce que vous pouvez faire, puisqu'il donne à chacun selon ses capacités. Chacun reçoit selon ses capacités, et chacun est appelé à gérer selon ses capacités, non pas les capacités des autres. J'aime beaucoup ce que Jésus va dire à Marie. Vous vous souvenez, Marie qui répand le parfum sur la tête de Jésus. Marie que les disciples critiquent pour avoir gaspillé le parfum. Et Jésus qui dit ces mots tellement encourageants, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et c'est ça l'essentiel. Quel repos de savoir que Dieu n'attend rien de plus de moi que ce que je peux faire. Mais encore faut-il le faire. Dieu nous sauve pour que nous le servions. Est-ce que nous le servons ? Si Christ est mon sauveur, il doit aussi être mon Seigneur. Il y a eu, il y a quelques décennies, tout un débat théologique entre ceux qui pensaient qu'on pouvait prendre Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Il est soit les deux, soit rien du tout. S'il est mon sauveur, il est aussi mon Seigneur. Je ne peux pas séparer le Christ. S'il m'a sauvé, si je suis sauvé, alors je dois servir. S'il est mon sauveur, il est aussi mon Seigneur. Et il faut que ma vie soit vécue pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son règne. Est-ce que le royaume de Dieu et sa justice sont des priorités dans ma vie ? Est-ce que j'ai compris la responsabilité qui est la mienne de faire fructifier ce que Dieu m'a confié, et en particulier son évangile ? Est-ce que j'ai bien compris qu'il est important que je saisisse toutes les occasions que Dieu me prépare ? N'agissons pas à l'image du troisième serviteur qui est allé enfouir ce que le maître lui avait confié. Il a vécu finalement toute sa vie sans tenir compte de son maître. Il l'a vécu sa vie pour lui. Il n'avait pas de soucis, pas d'intérêt pour les affaires de son maître. Il n'avait même pas conscience du retour de son maître. Mais le maître est revenu et il a demandé des comptes. Peut-être que vous êtes là ce matin et que vous êtes en train de vous dire que tout ça, ça ne vous concerne pas. La réalité, c'est que ce matin, nous avons tous ici entendu la parole de Dieu. Et nous sommes tous responsables de ce que nous allons faire de cette parole que nous avons entendue, de ces paroles, de ces talents que Dieu nous a confiés. Et au jour du jugement, Dieu nous demandera des comptes à nous qui étions présents ce matin pour cette parole qu'il nous a confiée et qui nous engage chacun ce matin. Jésus revient et que ce soit par son retour ou par notre mort, nous devrons un jour nous tenir devant lui et lui rendre des comptes. Que me dira Jésus ce jour-là ? Que vous dira Jésus ce jour-là ? Est-ce que ce sera ses biens ? Alors j'ai pris une autre traduction, ses biens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître ? Ou alors est-ce que ça sera ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parabole des talents nous invite à réfléchir à toutes ces choses. Et elle nous invite à choisir la bonne part. Elle nous invite à faire de Jésus-Christ notre maître, notre sauveur et notre Seigneur. Et elle nous invite à le servir de tout notre cœur. Et si c'est le cas, peu importe que j'ai reçu 1, 2, 5, 10 talents, peu importe que je sois à l'aise dans le témoignage ou pas, l'important, c'est de faire fructifier avec mes capacités ce que le Seigneur m'a confié. Et alors, j'entendrai, nous entendrons le Seigneur nous dire, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.